Galhistoire, l'application qui fait adorer l'histoire. Avec l'application Galhistoire, écoutez et regardez des centaines d'histoires à l'infini. Retrouvez tous les personnages Galhistoire, la série Mythes et Légendes et des nouveautés chaque mois. Vous pensez que vos enfants en sauront plus que vous sur l'histoire de France ou sur la mythologie égyptienne? Eh bien, vous avez raison. Alors, prêt à les faire voyager dans le temps? Essayez dès maintenant l'application Galhistoire à télécharger sur l'Apple Store ou Google Play.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans « Dans la classe 2 ». Avec « Dans la classe 2 », vous allez avoir la chance d'assister à une discussion entre des enfants de votre âge et un personnage historique. Marie Curie, Napoléon ou encore Nefertiti. Écoutez ces figures de l'histoire vous raconter les événements marquants de leur vie et surtout répondre aux questions de leur jeune public. Prêt ? Alors, en avant pour découvrir « Dans la classe 2 »
Aliénor d'Aquitaine.
Mais non, moi si j'étais un super-héros, je ferais méga muscle.
Moi, je serais super dame, c'est la plus forte.
Et moi, Top Woman, avec sa truffe magique, elle peut sentir les méchants à 10 km.
Et moi, je serais Aliénor d'Aquitaine.
Bah quoi?
Et c'est qui Aliénor d'Aquitaine?
Allez, tout le monde à sa place.
Monsieur Freeze, ils savent pas qui c'est Aliénor d'Aquitaine.
Intéressant. Eh bien, je ne vois qu'une seule solution pour vous la faire découvrir. Le grand livre d'histoire.
Ouais !
Alors, où elle se trouve ? 900, 1000, 1100. Ah ! La voici.
Waouh ! Elle est trop belle. Qu'est-ce qu'elle est grande ! Ils sont trop beaux, ces cheveux blonds.
Je vous entends, vous savez. C'est très gentil de me faire autant de compliments, mais qui êtes-vous?
Je me suis permis de vous sortir du grand livre d'histoire car Léo, l'un de mes élèves, tenait particulièrement à vous rencontrer.
Oh, un admirateur. C'est toi, Léo?
Oui, mes copains ne vous connaissaient pas et je voulais savoir si vous pouvez leur parler de tout ce que vous avez fait dans votre vie.
Bien sûr, Léo. Avec plaisir. Pour moi, tout commence vers 1122, date à laquelle je suis née. Je suis la fille aînée du duc Guillaume X, qui dirige l'Aquitaine. À ce moment, l'Aquitaine est encore une région indépendante du royaume de France. Appartenant à la noblesse, j'ai une enfance vraiment heureuse, durant laquelle je grandis dans un palais splendide à Poitiers.
Et c'est là que vous avez appris plein de choses comme la musique et l'équitation.
Oui, c'est vrai. La musique, l'équitation, mais aussi le latin, la littérature et la chasse.
Je vous avais dit, elle est trop forte.
En 1137, mon père décède et je prends sa relève. Je deviens duchesse d'Aquitaine et tous les seigneurs me jurent fidélité.
Alors qu'elle n'a que 14 ans.
Wouah, c'est super jeune.
Oh, et ce n'est pas fini. La même année, le 25 juillet 1137, habillée d'une magnifique robe rouge, je me marie au roi Louis VII, dans la cathédrale Saint-André de Bordeaux.
Duchesse est mariée à 14 ans? C'est fou! Moi, à cet âge-là, je suis même pas sûre de savoir quel métier je voudrais faire.
Et après, vous partez à Paris.
C'est cela. Je m'installe avec mon époux dans un palais situé sur l'île de la Cité, en plein cœur de la capitale. Mais malgré le luxe de cet endroit, je ne l'aimais pas trop. Je le trouvais triste et froid. Alors, je l'ai réaménagé, réorganisé et transformé pour en faire un endroit nettement plus gai. On y donnait de grandes fêtes. Il y avait des cracheurs de feu, des jongleurs et des troubadours qui nous contaient mille et une histoires. Vous auriez dû voir ça. L'Aquitaine apportait sa joie de vivre à ce nord un peu maussade.
Et vous vous occupiez aussi des affaires du royaume, non?
Oui, je n'ai pas fait que faire la fête. Je prenais aussi part aux décisions politiques, ce qui m'a valu de nombreuses critiques de la part de l'entourage de mon époux, qui n'aimait pas voir une femme expliquer comment elle entendait administrer son royaume. Mais je m'en contrefichais royalement. Et puis, le jour de Pâques 1146, ma vie prend un tournant majeur. Je participe à la deuxième croisade.
C'est quoi une croisade ?
Alors, les croisades, ce sont les expéditions que les chrétiens faisaient vers Jérusalem, une ville du Proche-Orient où se trouvent la plupart des lieux saints, comme le tombeau de Jésus, par exemple.
Nous sommes si nombreux sur la route qu'une file de chariots s'étend à travers toute l'Europe, provoquant des embouteillages gigantesques.
Et c'était bien ?
Oh oui ! Grâce à ce voyage, j'ai découvert Constantinople, Antioche et enfin la splendide Jérusalem. Ces villes étaient merveilleuses, à la fois belles et pleines de mystères. Louis VII, mon mari, ne comprenait pas ma fascination pour ces lieux. Et puis, avec les conditions de vie parfois difficiles que l'on rencontre lors d'une pareille expédition, nous n'avons pas arrêté de nous disputer. Jusqu'au jour où il me tapait tellement sur les nerfs que nous avons décidé de faire annuler notre mariage, le 21 mars 1152. Du coup, vous avez arrêté d'être reine de France ? Oui. Et je suis devenue reine d'Angleterre.
Quoi ? N'importe quoi !
Et oui, je me remarie à Poitiers avec Henri Plantagenet, l'héritier du trône d'Angleterre, qui deviendra plus tard Henri II.
Plantagenet, c'est rigolo comme nom.
En effet, c'est dû à son père qui aimait planter une branche de genêt sur son chapeau. Vous savez, ça fait une fleur jaune qui sent très très bon.
Et avec votre mari, vous étiez super fort, non ?
Oui, c'est vrai. Le 19 décembre 1154, nous avons été couronnés à Londres. Et en ce temps, notre royaume était l'un des plus puissants d'Europe. Mais bientôt, j'ai une tâche bien plus importante que gouverner un empire qui m'attend.
Combattre un dragon ? Trouver un trésor ?
Repartir à Jérusalem ?
Oh ça, ça aurait été de la rigolade. Non, je devais élever mes 10 enfants.
10 enfants ?
C'est beaucoup trop, il y en a 9 de trop.
Je vous l'avais dit, elle est trop forte.
Eh oui, j'ai eu 2 filles lors de mon premier mariage. Et avec mon second époux, j'ai eu 5 fils et 3 autres filles. Et je peux vous dire que ça occupait une bonne partie de mes journées. Surtout que parmi eux, certains sont amenés à devenir célèbres.
Oui, je sais, Richard Cœur de Lion.
Et moi, je suis Malik Festebook.
Bah oui,
bien, bonjour, je suis Jade Cherdebou.
Oyez, oyez, faites un tonnerre d'applaudissements pour Zoé Patte de Mouche.
C'est bon, c'est bon, c'est bon, je crois qu'on a compris les enfants. Léo parlait de Richard Cœur de Lion, l'un des fils d'Aliénor d'Aquitaine, surnommé ainsi en raison de son grand courage.
Exactement. En 1168, Henri II nomme notre fils Richard duc d'Aquitaine. Comme il n'a que 12 ans, je suis chargée de l'accompagner pour l'aider à diriger. Je suis si heureuse de retourner à Poitiers que je crée des cours d'amour.
C'est un cours pour apprendre à être amoureux ?
Oui, plus ou moins. On y faisait venir des musiciens, des ménestrels et des poètes. Ensemble, on discutait des questions de droit, de respect et d'honnêteté lorsqu'on aimait une personne. C'était vraiment très divertissant. À ce moment, ma vie était parfaite.
Oui, mais ça ne va pas durer.
Et non.
Quoi, qu'est-ce qui se passe ?
En 1173, mon mari m'accuse d'avoir soutenu mes fils dans un complot contre lui. Ce qui n'était pas totalement faux. Alors, Henri II me fait arrêter par ses soldats et me jette en prison. Pendant 15 ans.
15 ans ! 15 ans !
Et oui, une sacrée punition. Durant toutes ces années, mes fils ont tenté de faire changer d'avis leur père.
Et ils ont réussi ?
Au fil du temps, ma peine s'est un peu allégée et j'ai pu regagner la France. Mais je n'ai retrouvé la liberté seulement lorsqu'Henri mourut, en 1189, et que mon fils Richard monta sur le trône. Ça tombait bien, car je commençais à trouver le temps un petit peu long.
Et vous avez fait quoi après toutes ces années en prison ?
Richard est parti en croisade et pendant 10 ans, c'est moi qui l'ai remplacé à la tête du royaume. Et je peux vous dire que ce n'était pas de tout repos. Les barons se sont révoltés, mon autre fils, Jean Santerre, a voulu prendre la couronne et Richard s'est fait capturer sur la route du retour.
Jean Santerre ? Mais il s'enterre où ? Dans le jardin ?
Heureusement, pour une dame de 70 ans comme moi, j'avais toujours autant d'énergie et de fermeté.
Waouh ! Incroyable !
C'est vrai. Et je suis fière de dire que jusqu'au bout, j'ai joué un rôle politique majeur. En 1200, je décide d'emménager dans l'abbaye Notre-Dame de Fontevraud pour un repos bien mérité. C'est là où sont enterrés Henri II, mon fils Richard, décédé en 1199, et ma fille Jeanne. Mais avant, il me reste une dernière chose à faire. Je pars en Castille.
Une ancienne région d'Espagne.
Pour y chercher ma petite fille Blanche, afin de la marier à Louis VIII, qui deviendra roi de France. Et enfin, après 82 années de règne, de voyage, d'intrigues politiques et surtout de liberté et d'indépendance, je m'éteins le 1er avril 1204. Plutôt pas mal, non ?
Incroyable ! Moi, j'ai une question. 82 ans, c'est vieux pour une dame à cette époque, non ?
Oh, tu as bien raison. Surtout après avoir fait autant de choses. Il faut croire que de ne pas se laisser marcher sur les pieds, ça permet de garder la santé. Allez, je dois filer maintenant. Car une abbaye comme celle de Fontevraud ne s'entretient pas toute seule. D'ailleurs, si vous passez dans la région, n'hésitez pas à me rendre visite. Au revoir, les enfants.
Au revoir, Madame Aliénor d'Aquitaine.
T'avais raison, Léo. Elle est vraiment trop forte, Aliénor d'Aquitaine.
Les enfants, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre historique. Cet épisode a été écrit par Thomas Le Petit Cor, interprété par Vincent Payet et Clara Ziegler, mise en musique par Léopold de Roy et Fanny Dupuis. À bientôt pour un nouvel épisode de Dans la classe 2.
Ce podcast a été produit par Unique Héritage Média. Retrouve toutes les informations sur maisondupodcast.fr.